Bonjour, il était bien ce blanc, vous l'avez apprécié. Moi aussi, j'aime beaucoup les blancs, mais j'aime aussi les noirs. J'aime les oranges, les jaunes kaki. Et je parle parce que je suis en train de lancer l'enregistrement chez moi depuis ici. Mais je vais y arriver, c'est lancé. Et plus qu'à lancer le jingle, si je le retrouve.
L'émission qui n'a pas de nom.
C'est l'émission qui n'a pas de nom, c'est bien. Si c'est dans tes oreilles, cool. Hein. Bon, bon. Ça va pas, non? Comment ça? Ça va pas, non? Ça va pas, non?
Bon, pas de nom.
Ça va pas, non? Non, non, non.
Ça va pas, non? C'est n'importe quoi?
Bah, c'est n'importe quoi?
Ça va pas, non? Non, mais.
Hé, quoi?
Hein?
T'as papa? Bonjour, rebonjour. Ça y est, c'est reparti, une troisième saison de cette émission où on rigole, on parle vrai, enfin pour moi, je garantis pas la franchise de mes invités. Et aussi dans cette émission où on n'a pas peur de dire des choses qui dérangent. Alors les choses qui dérangent, je voudrais quand même préciser ce point, ce ne sont pas des éléments qui viennent chez vous pour mettre les chaussettes hors des tiroirs ou mettre des fourchettes dans les casiers des couteaux. Non, les choses qui dérangent, c'est dans ce cas la critique des décisions des élus qui ont bien souvent oublié qui les a élus et qui les représentent. Oui, je n'allais pas lâcher ce ton que les élus qualifient le plus souvent d'un ton dédaigneux de populiste. Comme si ce qui touchait le peuple était moins noble que ce qui touchait les élites. Si le peuple était riche, peut-être aurait-il pu mieux être éduqué culturellement et pourrait penser comme ses élites. Ah, c'est beau ce que je dis. Qui sont les élites que j'incrimine? Les personnes qui détiennent le capital. Je sais plus aussi ceux qui s'enrichissent aussi grâce au travail du peuple, justement. Et les élus qui sont élus démocratiquement. Oui, j'ai mis des gros guillemets à démocratiquement, car la plupart du temps, ils sont élus par moins de la moitié des personnes qui peuvent voter. Bien entendu, certaines personnes détiennent le capital et sont élus démocratiquement. L'un n'empêche pas l'autre, loin de là. Et la plupart du temps, ces deux milieux sont liés. Trêve de populisme, j'ai failli oublier de dire que vous écoutez la seule émission qui n'a pas de nom sur Radio Bip 96.9, la seule radio qui contient un acte sexuel dans sa fréquence, à Besançon. Mais surtout la radio qui essaye de propager d'autres opinions que celles rebâchées dans les médias dominants. Et puis une radio où on ne passe pas de publicité commerciale. Enfin, on n'est pas là pour parler de Radio Bip, mais pour parler sur Radio Bip de tout ce qui vous touche, plus ou moins, enfin, puisque c'est moi qui écris et dirige cette émission, plutôt de ceux qui me touchent, moi. La plupart du temps, ce qui me touche, ce sont des vêtements que j'ai récupérés à droite, à gauche, des chemises que je ne repasse jamais, et qui me donnent cet air inimitable de clochard que je fus. C'est intéressant de savoir ça, vous avez besoin. Vous auriez pas un petit brin de monnaie, d'ailleurs? À ce moment, n'hésitez pas à jeter une obole à travers vos enceintes, histoire que mon invité ou moi soit assommé par ces petites mais sournoises pièces frappées du sigle euro. Et je n'arrive plus à parler. C'est les vacances qui m'ont tout cassé. Mais je sais pas quoi dire, c'est très bien. Tiens, mon invité doit se demander ce que je fais, d'ailleurs, vous aussi. Eh mais pourquoi il parle? C'est moi l'invité. C'est quand que je termine ce monologue d'introduction dans lequel je n'ai pas le droit d'intervenir? N'est-ce pas, invité, vous vous dites ça? Non, ne répondez pas, malheureuse. Je viens juste de dire que vous n'aviez pas le droit de parler pendant que je faisais mon magnifique monologue d'introduction. Bon, si vous ne m'écoutez pas, c'est bien. Si vous m'écoutez, c'est cool. Puis si jamais vous aviez parlé, invité, ça aurait été mal. Après, je m'aurais dû m'énerver. Je me serais roulé par terre. J'aurais crié avec une voix rauque et aiguë. Je suis pas sûr que ce soit super bien pour l'ambiance. Enfin, quoique, on sait jamais. Bon, trêve de monologue d'introduction mal lu. C'est normal, c'est la rentrée, c'est difficile. Il fait frais en plus, il fait au moins moins 15 degrés, on se croira à Pontarlier. Et on va faire un petit jingle et puis on est parti.
La seule émission qui n'a pas de nom.
C'est n'importe quoi.
Papa. Voilà, c'est fini. Apolline Triulaire, militante, c'est bien ça, du Parti Ouvrier, au Parti Ouvrier Indépendant.
Oui, c'est ça, militante au Parti Ouvrier Indépendant, exact.
Alors, on vous entend pas, j'ai dû encore mal brancher les choses. Voilà, ça devrait être mieux.
C'est la rentrée, c'est pas grave.
Voilà, normalement ça devrait marcher.
C'est bon,
là. On y croit. Donc, on vient de dire que vous êtes militante au Parti Ouvrier Indépendant. Je sais que ça se fait pas de dire l'âge des femmes, mais bon, hein. Après des dizaines d'années de combat féministe, il est normal de vous traiter en égal. Et donc de donner votre âge. Et puis de toute manière, vous êtes jeune, donc ça ne doit pas vous déranger, puisque vous avez que 45 ans.
Et toutes mes dents, voilà, je tiens à noter.
Bon, 45 ans moins 20, trêve de blague de merde, 25 ans vous avez, ce qui est jeune. Vous êtes une femme, vous êtes jeune. Et on l'a déjà dit, vous militez au sein du Parti Ouvrier Indépendant, mais il faut le dire plusieurs fois, parce qu'on ne connaît pas très bien ce parti. J'ai oublié de faire le plan. Là, on fait la biographie, votre biographie.
Attention, hein.
J'aime bien rappeler d'où viennent socialement les gens, parlant. Bah vous, vous avez des parents fonctionnaires, en gros une mère infirmière scolaire, un père qui était professeur, sur lequel je vais éviter de faire des blagues vu son décès, ça se ferait pas trop.
Oh c'est pas grave, j'aime bien justement, ça me fait rire.
Et oui, donc un milieu fonctionnaire, c'est en général les fonctionnaires roulent pas sur l'or, mais vous m'avez dit quand même un peu hors micro que oui. C'était pas non plus
non plus trop la galère. Hein, je pense qu'il faut pas. On était on est trois enfants, mais mon père avait plusieurs postes fonctionnaire. Il donnait des cours à la fac et des cours au conservatoire, donc on n'a pas non plus été dans la misère. Voilà.
Il y avait à manger.
Voilà, exact. Il y avait à manger, il y avait de quoi s'habiller, c'est l'essentiel.
Est-ce qu'il y avait même de quoi se cultiver aussi?
Oh oui, un petit peu de quoi se cultiver quand même, puisque mon père, c'est vrai que il travaillait pas mal dans le milieu des arts de la scène, toutes ces choses-là, la musique. Donc c'est vrai que du coup, il nous emmenait quand même à des concerts. On a vu aussi du théâtre aussi, pas mal de petites choses comme ça. Mais donc c'est vrai que oui, quand même un petit peu cultivé. Mais bon, je pense que ça vient plus de mes parents que de leur milieu financier. À mon avis, c'est plutôt ça.
Donc c'est peut-être le fait que vous ayez eu un peu de culture qui vous a aidé aussi à réussir vos études, enfin, parce que vous êtes quand même assez loin, vous.
Donc... Ah, c'est plus le travail, je pense. On est qui aide dans les études que la culture vraiment. Hein. Je pense que non, on n'est pas. Après, j'ai eu des parents qui m'ont toujours bien obligé à travailler à l'école. Ça aide beaucoup quand même d'avoir ces parents qui vous bottent le cul pour que vous appreniez vos leçons. Forcément, ça aide un peu. Oui.
Alors oui, vous faites des études. Vous là en ce moment, vous êtes en train d'écrire une thèse.
Exact.
En chirurgie dentaire.
Oui.
Et là, vraiment, ça fait venir plein de questions dans mon esprit. Comment ça se fait qu'un jour, on se dit, ah tiens, si j'allais soigner des dents dégueulasses de gens, quoi. Comment on...
Alors, en fait, c'est tout simple. D'abord, on fait une première année de médecine en se disant, médecine, allez, c'est bien. En sortant du bac, je vais faire médecine. Peut-être que je serai médecin. Et puis, au cours de la première année de médecine, on se pose des questions sur ce qu'on veut vraiment faire. On se demande si on a envie de faire ça toute sa vie. Et puis, on réfléchit un peu. Puis, à l'issue du concours de la première année, en fait, on a le choix. On avait le choix. Je sais plus si c'est exactement le cas parce qu'il y a eu des réformes. On avait le choix entre médecine, dentaire et sage-femme. Et j'ai réussi le concours, j'ai été bien classée. J'avais le choix entre les trois et j'ai choisi de faire dentaire. Donc après, je suis partie en faculté dentaire de Nancy, puisqu'il n'y a pas de faculté dentaire à Besançon. Il faut le savoir, pour la Franche-Comté, on forme pas de dentiste.
C'est pour ça voilà. Qu'on a des mauvais dentistes à Besançon.
Ah ça, je peux rien dire. Déontologiquement, j'ai pas le droit.
Alors là, ça va être la meilleure question, je pense, de l'émission. Et la question qui va intéresser tout le monde.
Attention.
Sur quoi porte votre thèse?
Oh, attention. C'est une thèse historique. Une thèse, parce qu'il faut savoir que, historiquement, donc mon prénom c'est Apolline, j'ai été prédestinée à devenir dentiste, puisque Sainte Apolline est la patronne des dentistes. Non, ça me fait beaucoup rire, parce que je suis pas du tout issue d'une famille chrétienne qui m'a élevée là-dedans. Et donc, au moment de choisir un sujet de thèse, plutôt que de développer les caries, les traitements endodontiques, les implants, toutes ces choses qu'on fait, qui sont très sympathiques, mais bon, qui sont plus un petit peu scientifiques, je me suis dit, je vais faire une thèse historique sur le culte de Sainte Apolline. Voilà, qui était une sainte dans l'église chrétienne qui était invoquée contre les douleurs de dents. Voilà.
On n'a pas souvent l'occasion de parler des saints sur Radio Bip.
Exact, exact. Je trouvais que ça manquait beaucoup.
Des saints religieux. Bon, elle a l'air passionnante cette thèse. Hein. Vous ne voudrez pas hésiter à me l'envoyer quand elle sera finie. J'adore lire les thèses en chirurgie dentaire. Avant de dormir, ça m'aide.
Ah oui, c'est...
Après, on fait des beaux rêves.
Ouais.
C'est génial. Dans la présentation que vous m'avez envoyée, vous m'avez indiqué que vous avez fait des remplacements en cabinet dentaire. Vous en faites. Vous avez uniquement travaillé dans ce domaine?
Non, j'ai fait pas mal de petits boulots d'été avant. Je sais pas si c'est ce que vous
si,
avez
oui,
demandé.
C'est ça.
Ah si si, oh, j'ai fait plein de petits boulots d'été. J'ai vendu du poisson sur des marchés en Vendée. J'ai fait du ménage à l'Assad de Besançon. J'ai cueilli des framboises et des myrtilles à côté de Saumur, je crois. Non, j'ai fait pas mal de petits boulots. J'ai donné des cours au conservatoire aussi, une ou deux heures. Et je crois que c'est tout. Mais oui, j'ai fait pas mal de petits boulots pendant l'été parce que même si mes parents m'ont toujours aidé à payer mes études, pour aller au cinéma, pour faire ce genre de choses, il valait mieux que je gagne un petit peu d'argent de mon côté. Et puis c'est vrai qu'aussi pour me payer une voiture et ce genre de choses. Voilà.
Donc
j'ai fait pas mal de petits boulots, ouais.
Ce qui est un peu plus pratique quand on est dans un parti aussi qui s'appelle le Parti Ouvrier Indépendant, d'avoir ressenti un peu la vie des ouvriers. Est-ce que ça aussi, ça peut être utile, non?
La vie de dentiste, dans le sens ouvrier, au sens général, on parle d'ouvrier, on s'appelle parti ouvrier indépendant, puisque, en fait, on veut représenter ceux qui travaillent, c'est-à-dire ceux qui ont besoin de vendre le produit de leur travail à des gens.
C'est quelqu'un qui a un patron, non?
Voilà, c'est ça. Mais après, moi, je fais des remplacements, je ne suis pas encore titulaire de mon cabinet, donc pour l'instant, je ne suis qu'employé, je gagne que 40% de ce que je dégage comme chiffre d'affaires. Et un dentiste, même si c'est un monsieur qui gagne plein d'argent, c'est quand même quelqu'un qui bosse 40 heures dans la bouche des gens et donc il travaille, c'est sûr qu'il... Voilà.
C'est un travailleur.
C'est un travailleur, oui. On a beau dire que c'est des gens qui roulent en Porsche et qui vont jouer au golf tout le temps. Ce sont des travailleurs. On n'a pas l'impression, mais je vous jure, c'est physique.
Bon, alors, les ouvriers, c'est un peu pareil. Ils roulent dans des Porsches, mais les Porsches, c'est pour rentrer dans leur maison.
Exact.
Et puis, ils vont jouer au mini-golf. Hein.
Ouais.
Au golf sur ordinateur.
Non, mais c'est parce qu'on a un petit peu cette image d'Épinal des dentistes qui... Alors, c'est vrai, je ne vais pas dire le contraire. Il y en a certains qui abusent quand même pas mal, mais faut quand même pas oublier que j'ai aussi des amis qui gagnent qui ont terminé leurs études qui avec toutes les rétrocessions plus les impôts vont gagner un petit peu plus de 2000 euros, quoi. C'est quand même pas, au bout de 6 ans d'études, c'est pas non plus ça me paraît pas atroce, enfin
oui,
c'est bien, c'est sûr, mais c'est pas non plus démesuré, dirons-nous.
Oui. Mais c'est pas non plus une généralité. Enfin, bon, on va pas.
Oui, bien sûr, c'est pas une généralité. Mais c'est vrai qu'après, oui.
On va pas parler uniquement des dentistes. Hein. On sait jamais. Moi, je vais me faire soigner dans pas très longtemps. J'ai pas trop envie qu'on me charcute la bouche.
Comme beaucoup de monde.
Donc, oui, vous êtes au Parti ouvrier depuis 3-4 ans.
Ouais,
ouvrier indépendant. Il faut peut-être que je précise. Donc, pourquoi le Parti ouvrier indépendant? Il y a quand même beaucoup de partis de gauche. Il y a le choix. Ça doit pas être facile de choisir. Pourquoi celui-là?
Oui, surtout que généralement c'est assez peu facile de choisir. En fait, j'ai connu le Parti ouvrier indépendant par mon compagnon qui est au Parti ouvrier indépendant. Et puis j'avais quelques réticences puisqu'il y avait certaines choses que je comprenais pas par rapport notamment à l'Union européenne ou des choses comme ça. C'est vrai que j'étais encore un petit peu baignée dans ce discours de l'Union européenne. C'est bien, c'est beau, ça va nous aider. Et puis au bout d'un moment, j'ai dit écoute, passe-moi des documents que je lise, donne-moi des bouquins et puis je vais bien voir. Et puis j'ai lu, j'ai regardé des articles, j'ai réfléchi, et puis c'est vrai que finalement par rapport aux autres partis de gauche j'ai vu qu'il y avait certaines choses qui me plaisaient plus dans le Parti ouvrier indépendant, et notamment tout ce qui touche à l'Union européenne.
Oui,
c'est vrai que dans les autres partis, même si pour eux l'Union européenne ne leur convient pas, ils se présentent quand même à des élections européennes et ils ont toujours, je pense que c'est cette pensée, mais c'est très louable, hein, que s'ils sont élus et que de l'intérieur, ils arriveront à changer le mécanisme. Sauf que le problème, c'est que l'Union européenne, elle a été institutionnalisée, en fait, si vous voulez, par le capital. Je veux dire, c'est dans ses textes fondateurs, en fait. Elle est profondément anti-ouvrière et pro-capitaliste. La concurrence libre et non faussée, c'est inscrit dans ses traités. Et donc, s'il y a beaucoup de gens de ces autres partis qui sont élus et qui décident de complètement renverser la vapeur, mais ça va être énorme. Ça veut dire que tous les partis de l'Union européenne doivent présenter des candidats qui pensent la même chose, il faut qu'ils soient élus, et qu'après, tous ensemble, ils décident de détruire et de refaire des traités.
Ça se voit pas, les grimaces et les mains qui se lèvent, comme ça on les voit pas à la radio. Hein.
C'est compliqué.
Parler de l'Union européenne, elle a quand même eu un bon côté, qui est qu'on ait parfait la guerre à l'Allemagne. L'utilité de, je pense, l'Union européenne, c'est au moins qu'on se fasse pas la guerre.
Oui, c'est vrai, mais après, on peut ne plus se faire la guerre par d'autres moyens. Le Parti ouvrier indépendant est membre de l'Entente internationale ouvrière, donc en fait, c'est un courant qui milite pour que les ouvriers entre les pays se rassemblent et mettent fin au capital et à l'oppression. L'Entente internationale ouvrière est contre l'exploitation, la guerre et toutes ces choses-là. Donc je pense qu'il y a d'autres solutions qui existent pour solutionner le problème de la guerre.
Et puis
de toute façon,
si
l'Union européenne a quand même part dans certains conflits dans le monde actuellement. Certains pays de l'Union européenne, hein, donc je veux dire, ça n'empêche pas que...
Vous disiez que votre entente internationale ouvrière est contre la guerre. Je me demandais s'il y avait des ententes internationales pour la guerre.
Très on ne sait jamais, hein.
On reparlera de l'Union Européenne en fin d'émission, parce que ça casse tout mon plan. Normalement, on est censé en parler à la fin, dans les questions d'ordre national et international. Oui. Mais bon, c'est quand même la grande différence du Parti Ouvrier Indépendant. Je l'avais aussi noté dans ma petite fiche. Mm-hmm. Et je me demandais aussi, vous avez dit que c'est votre compagnon qui était au Parti Ouvrier Indépendant. Rassurez-nous, votre compagnon, c'est pas Gérard Chivardi.
Ah non, 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 désolé, il est un petit peu trop vieux pour moi. Très sympathique, mais un petit peu trop vieux. Non, non, mon compagnon, pas du tout.
Donc Gérard Chivardi, je vais le rappeler pour les gens qui ne connaîtraient pas, c'est un peu l'un des créateurs de ce parti, quoi.
Un petit peu, ouais. C'est un des quatre secrétaires principaux avec Daniel Glückstein, Jean-Marc Kuhn et Marc Genet, je crois. On a quatre secrétaires nationaux.
Il est assez haut en couleur, comme Gérard Chivardi.
Oui, oui, oui. Le pauvre, à chaque fois, on le sous-titre quand il parle, alors qu'on le comprend. Enfin, c'est un peu de l'acharnement contre lui, je trouve. Bon, c'est rigolo. Moi, ça me fait rire.
Vous êtes candidate à rien, parce qu'il n'y a pas d'élection qui vient.
Et non, on est candidat à rien. C'est terrible, ça. Non, mais on ne vit pas. Heureusement que le Parti Ouvrier Indépendant ne vit pas que quand il y a des élections, déjà qu'on ne fait pas beaucoup de scores. On n'irait pas bien loin. Non.
Vous n'avez pas beaucoup accès aux médias aussi.
Oui, aussi. En plus, c'est vrai que ça n'aide pas forcément. Non, non, mais c'est pas parce qu'il n'y a pas de campagne ou quoi que ce soit qu'on ne se bat pas. On mène plusieurs combats en parallèle. Le parking payant de l'hôpital. Et puis là, aussi le traité européen. Contre le traité européen.
Toutes des choses dont on parlera en dehors de la bio. puisque, oui, vous n'êtes candidate à rien, mais vous avez été quand même la suppléante candidate du candidat Daniel Jeannin, qui était sur la quatrième circonscription du Doubs.
Exact, oui.
Avec un score qui a dû forcément vous décevoir, quand même. Un petit peu, au moins, parce que c'était 0,57%. Bon, il faut quand même dire qu'il y avait 7 candidats de gauche et écologistes sur cette circonscription. Bon, 8 si on rajoute Pierre Moscovici, mais bon, j'ai toujours un peu de mal de mettre le Parti Socialiste... À gauche, ça vous a appris quoi cette campagne, ce score aussi?
Je pense que déjà il faut pas vraiment être déçu du score. On n'a jamais fait des grands scores et celui-là il doit être à peine mieux que les élections précédentes. Donc c'est pas mal. On progresse. Non, mais
vous
je pense que
pas les plus bas en plus. Après, hein.
En plus on n'était pas les plus bas, ce qui est quand même assez étonnant. Et non, c'est je pense que on apprend toujours de toutes ces choses-là. Il faut pas non plus. Non, moi ça m'a appris pas mal de choses parce que c'est vrai que du coup je m'étais jamais présenté à des élections en tant que suppléante ou en tant que quoi que ce soit. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de paperasse, il y a pas mal de choses, de réunions à organiser. C'est assez formateur, on rencontre des gens. Non, c'est très bien. Puis on a pu avoir... Ça m'a permis aussi de connaître un petit peu plus le sujet de la fusion des deux hôpitaux Belfort-Montbéliard, qui est assez catastrophique, puisqu'ils sont en train, d'ailleurs, c'est comme ils veulent construire un site médian entre ces deux hôpitaux-là, ils suppriment la moitié des lits, en fait. Dans ce nouvel hôpital qui va être créé entre Belfort et Montbéliard, il y aura moitié moins de lits et moitié moins de capacité d'accueil. Et il y a pas mal de services, par exemple la psychiatrie, qui ne sera plus public, qui est privé maintenant. Donc c'est vrai que voilà, ça apprend pas mal de choses sur ce qui est en train de se passer de ce côté là-bas.
C'est voilà. Sympa de transformer la santé en entreprise.
C'est un petit peu sympathique, oui.
Bon, alors je vais donner le plan, puisque je ne l'ai pas donné. On vient de faire la bio.
Je
suis un mauvais universitaire, j'aurais dû annoncer mon plan avant. Ensuite, comme d'hab, on fera les questions locales, les petits questionnaires décalés, dont Anne Michel qui n'est pas là, vous l'entendez, il manque. Mais je le ferai quand même pour voir si notre invité est intelligente et cultivée. Et puis après on parlera de choses plus larges, nationales et internationales. Il manque d'entrain dans ma voix, c'est j'en remets, vous le sentez, tout l'entrain, toute la joie de vivre, tout le jus de fruits que j'ai bu ce matin, qu'est-ce que c'est pas vrai. Et on passe aux questions locales. Les questions locales avec bien sûr ces licenciements annoncés chez Peugeot Citroën. Donc 8000 à l'ordre, pour toute la nation. Ouais. 579, je le redis, au cas où vous n'auriez pas compris, vous auriez pu croire juste 579. Donc 579 à Sochaux-Bellechamp, et ce qui est assez remarquable, enfin que moi j'ai remarqué, c'est que sur ces 579, il y a plus de techniciens à être cadres que d'ouvriers qui vont être licenciés. Bon, déjà, les conséquences en elles-mêmes, non, on va parler plutôt des causes. Pour vous, c'est... Les causes de licenciement chez PSA, vous n'êtes peut-être pas étudié forcément le sujet, mais vous avez bien des réponses toutes faites contre les licenciements.
Non, on n'a pas de réponse toutes faites contre les licenciements. Non, les licenciements, la simple bonne raison, c'est que À partir du moment où une entreprise ne fait plus de chiffre d'affaires en vendant sa marchandise, il y a bien un moment donné, pour pouvoir continuer à faire du profit, elle va être obligée de faire quelque chose. Donc la seule solution qu'ils ont, même s'il reste un chiffre d'affaires qui est quand même assez honorable, c'est de taper sur les travailleurs, tout simplement. Donc en diminuant le nombre de travailleurs, et puis ceux qui restent, on va leur diminuer leur salaire, ou on leur reprendre certains avantages, ou voilà, on s'arrange toujours pour faire ça.
Puis bon, ce qu'on n'a pas compté aussi dans ces...
c'est les sous-traitants,
oui. Et les intérims aussi.
Oui, exact.
Les intérims, les CDD qui sont pas renouvelés.
Voilà, puisque de toute façon, on considère généralement pas les intérimaires comme des vrais travailleurs. C'est pas moi qui le dis, mais c'est souvent bien comme ça, que c'est pas compté dans les statistiques, et pas pris en compte. Puis c'est aussi... oui, parce que là, pour l'instant, les 8000, c'est le chiffre de PSA, uniquement. Donc le problème, c'est que vous pouvez compter 2 à 3 fois le même nombre en sous-traitant dans les entreprises à côté. Donc ça veut dire que tout le bassin et tous les emplois qui sont rattachés à ça, ça va être catastrophique. Pour la région, ça va être catastrophique en tout cas.
Parce que toute notre région, enfin toute l'économie de notre région maintenant dépend de Peugeot. Enfin.
Bah oui, on va pas dire qu'on est une super région touristique ou qu'on fait autre chose. Hein. Faut pas se leurrer entre ça. Non, ça va être catastrophique. Mais après. Après, qu'est-ce que le gouvernement de gauche fait il éponge, il passe la serpillière, j'appelle ça la gauche serpillière, mais il passe la serpillière derrière les plans en disant bon allez, on va faire un peu de reconversion professionnelle pour un quart des gens qui se font virer, il y en a un autre, on va les mettre, allez hop, retraite, anticipée, et puis voilà, enfin, c'est colmater les brèches d'un navire qui coule, et c'est ça aussi, c'est pour ça aussi que je ne suis pas allée dans un autre parti.
Un navire qui coule, pas forcément, puisque les ventes de voitures me disaient... Michel Ferropicon de la CGT, quand j'ai reçu là-dessus, il m'a dit que les ventes de voitures ne baissaient pas dans le monde, elles augmentaient même.
Non, mais c'est ça qui est, c'est que le navire coule pour les gens qui le dirigent, parce que pour les gens qui le dirigent, ils ont de moins en moins de bénéfices, alors que pourtant ils ont quand même des bénéfices qui sont assez catastrophiques, mais pour eux, un petit peu moins de bénéfices tout de suite. Ouh, attention. Et donc ça doit nécessiter de mettre en place plein de choses. Virer des gens, et puis toutes ces choses-là, mais c'est vraiment dommage. Mais oui, moi je trouve que le gouvernement actuel a une politique de colmatage de brèches. Voilà, c'est ça.
La question qu'on pourrait se poser, c'est Peugeot ne devrait-il pas se mettre à construire des tramways, puisque c'est un peu la mode.
Ah oui, c'est vrai. Mais il me semble que le tramway de Besançon, il est construit en France, je crois pas. Hein.
Non.
C'est pas en Espagne.
À moitié en France, à moitié en Espagne. Il est construit une entreprise basque. Donc plus axé du côté espagnol.
Ouais, mais la question là aussi, on va dire encore que je reviens à ça. Pourquoi est-ce que finalement on n'a pas le droit de construire le tram de Besançon à Besançon?
Bon, la question, c'est je vais faire l'avocat du diable. Donc c'est les appels d'offres.
Oui.
Ils font des appels d'offres et puis
on fait des appels d'offres
et
on prend le moins cher. Et puis on est obligé de prendre le moins cher. Pourquoi? Parce qu'il faut garder une concurrence libre et non faussée. Tout simplement.
Donc, c'est encore. C'est
l'Union européenne, je crois. Non, après, on va dire que je suis qu'une anti-européenne de base. Non. Le principe de l'Europe est très noble et très chouette à partir du moment où on se bat pour que tout le monde ait la même chose. Mais si c'est pour tirer les gens vers le bas, je pense pas que ce soit. Je pense pas que ce soit ce qu'il faille faire.
Donc, ce que vous dénoncez, en fait, c'est cette Europe néolibérale.
Exact.
Suppos des lobbies, mais on en reparlera après.
À la fin.
Oui, donc ce tramway devait me servir normalement de transition pour parler de la grogne des commerçants byzantins, parce que je trouve ça intéressant de parler des commerçants avec les partis de gauche, parce que c'est pas facile pour les partis de gauche d'en parler. Souvent, le commerce, c'est pas un principe que. La gauche, en général, approuve le fait de s'enrichir uniquement parce qu'on a les plans que les autres n'ont pas, ou de l'argent, tout simplement. Mais là, les commerçants qui sont impactés par ces travaux du tramway, est-ce que vous seriez prêt à les aider? Enfin, est-ce qu'ils vous touchent?
Touché. Je vais pas en dire que j'en pleure pas la nuit, hein, non, mais peut-être pas quand même. Non, j'ai déjà discuté avec des commerçants du centre-ville, c'est vrai qu'ils le ressentent. Je pense que oui, c'est vrai que la municipalité aurait pu mener des concertations avec eux pour voir un petit peu ce qu'ils pourraient faire pour que ça leur facilite le travail. Je pense pas que la gauche devrait être gênée de parler des commerçants, enfin, même si c'est des gens qui vendent des choses à d'autres. On a bien besoin dans une société qu'il y ait des gens qui vendent des choses à d'autres. Enfin, je trouve que c'est une question un petit peu. Je sais pas pourquoi les partis de gauche sont gênés avec ça. Bah, après, le tout est de vendre.
Les ouvriers, pas les patrons. Bien sûr, le commerçant, après, c'est une forme de patron.
C'est une forme de patron, oui. Après, il faut bien qu'il y ait des gens qui vendent des choses. Enfin, moi, après, ça me paraît pas. C'est. Je pense pas qu'il faut être misérabiliste pour faire de la politique de gauche, c'est surtout ça. Enfin, moi, c'est pas quelque chose qui me gêne de parler d'argent. Je pense que. Après, c'est sûr, bien entendu, il faut vendre avec taxe et mesure, et ça, c'est la question qu'on doit se poser. Est-ce que les commerçants, actuellement, certains commerçants vendent avec taxe et mesure certaines choses ? C'est ça qu'on peut se poser. Après, par rapport au problème du tramway, c'est vrai que je pense qu'il aurait fallu plus discuter avec les commerçants des travaux, de comment faire pour réussir à maintenir une activité au centre-ville, parce qu'il faut quand même pas se leurrer, les gens n'y vont plus au centre-ville. Hein. Moi, j'y vais plus. Je vis en dehors de Besançon, je n'y descends plus. Avant, j'y allais une fois par semaine. Je n'y vais plus une fois par semaine, vu le bazar que c'est. Donc forcément, ça va s'impacter sur les commerces au centre-ville. On peut pas se leurrer.
Vous m'avez même dit que vous avez des problèmes avec votre voiture à cause
oui.
du tramway.
Enfin, oui, parce que je passe souvent par Besançon, par les rues où il y a des travaux, à peu près une fois par jour, même si je ne vais pas au centre-ville maintenant plus. Au centre-ville, j'y passe quand même une fois par jour. Et j'ai des pneus qui sont neufs d'un an. J'en ai un qui a éclaté. Il y avait une vis dedans, apparemment. Donc, je me pose des questions de sabotage de la municipalité.
C'est ça, conspiration des services secrets municipaux.
Exact. Non, mais c'est vrai que c'est un petit peu agaçant. Et quand je suis allée justement faire réparer, enfin changer mon pneu, parce qu'il a fallu le changer, je n'ai pas pu le faire réparer, j'en ai parlé avec la secrétaire qui tenait ça, et c'est vrai qu'elle me dit qu'ils ont beaucoup plus de personnes qui viennent avec des pneus crevés et des problèmes comme ça, depuis qu'il y a les travaux. Donc. Elle s'en rend compte, et avant, c'est vrai qu'elle disait souvent aux gens, bah écoutez, patientez le temps que les travaux, c'est les travaux, après ça finira, et puis elle a eu des soucis avec la municipalité, et elle a dit maintenant, je les renvoie systématiquement en leur disant, allez exprimer votre mécontentement à la mairie, voilà.
Ouais, ça montre encore un autre aspect positif du tram, ça donne
du travail aux revendeurs de pneus. Oui, je pense pas qu'ils en aient vraiment besoin, mais bon. Non, c'est vrai que c'est travaux, c'est assez mal indiqué pour les gens qui. Mais encore à la rigueur, moi je me plains, mais finalement, moi je pense aussi aux personnes qui doivent se déplacer en fauteuil roulant ou ces choses-là, en poussette ou au centre-ville.
Des roues, c'est catastrophique. Roues 4x4.
Voilà,
des
ça
roues,
doit être ça. Ouais. Il faut monter sur les grosses roues de Meur, là, au moins. Non, mais au centre-ville, c'est catastrophique parce qu'il y a des cailloux partout, des bosses, des trottoirs. Enfin, je veux dire, c'est. Comment ils font, quoi.
Il y a une autre population à laquelle on pense pas, les gens qui marchent pieds nus, les pauvres.
Exact, les gens qui marchent pieds nus aussi, c'est catastrophique.
Il y a un autre vrai effet collatéral du tramway, c'est cette augmentation des abonnements de bus scolaires à Besançon, les abonnements diabolos de plus de 60%. Bon, je dis que c'est un effet collatéral du tram, parce que ça semble quand même logique que cette augmentation vienne quelque part, enfin c'est la même, c'est la communauté d'agglo qui gère les travaux du tramway, qui gère les transports, donc ça doit être un peu lié, donc on répercute, on fait payer en gros parents d'élèves les travaux.
Il me semble que c'est la communauté d'agglomération, le Grand Besançon.
Ouais, ça.
J'ai lu 2-3 articles, en fait, ils se défendent de dire qu'ils répercutent le coût du tramway dans l'augmentation des abonnements, mais je pense qu'il faut pas se leurrer non plus. Ils ont parlé d'une histoire de rallonge de 800 000 euros l'an dernier parce que avec l'augmentation du prix de l'essence, il fallait qu'ils trouvent 800 000 euros en plus pour payer aux sous-traitants,
alors qu'en
etc.
Vrai,
bon, après, je pense qu'une augmentation de combien 60%, il me semble, c'est énorme. L'abonnement annuel, il passe de 102 à 165 euros par personne, par enfant. À mon avis, ça m'étonnerait que le prix de l'essence augmente de 60% par an. Enfin, ou alors, j'ai vraiment de très mauvais yeux, ou là où je vais acheter mon essence, elle est peut-être moins chère qu'ailleurs. Mais ça m'étonnerait quand même. Enfin,
ce que me disait la FCPE quand je leur ai fait parler de ça, enfin, quand ils sont venus parler de ça, c'est quand on a envie d'en parler, c'est que j'ai oublié, mais je vais le retrouver ici, le budget de la communauté d'agglomération était excédentaire, enfin, plus important que l'année précédente.
Mais après, ça, c'est un choix politique. Hein. De toute façon, il y a besoin de faire des économies, puisque. Il va y avoir toutes ces questions de traité européen, mais on va en reparler. et de toute façon, bah, ils ont décidé, de toute manière, les gens qui se servent de ces abonnements-là, qui sont les abonnements qui sont au moins de 18 ans, ils n'ont pas le choix. Je veux dire, il faut bien qu'ils aillent en cours. Donc, le Grand Besançon, c'est pertinemment que les gens ne vont pas faire autrement que payer. Ils vont pas soudainement prendre leur voiture et emmener leur gamin à l'école, ou surtout avec les travaux du tram, génial. Donc, de toute façon, ils n'ont pas le choix. Et ils le savaient pertinemment. Donc, je pense qu'ils ont un petit peu profité de ça. Mais bon, le souci de la réduction des coûts, je pense qu'il y a, la part de décentralisation avec la diminution des dotations de l'État. Donc, forcément, on essaie de racler les fonds de tiroir. Et puis, il y a le tramway. Et puis, voilà. Et puis, il ne faut pas oublier non plus que le sous-traitant qui ramasse l'argent à la fin, Jimco, c'est une filiale de Veolia Transdev. Donc... je pense pas que Veolia Transdev a pour principale préoccupation que le petit Kevin puisse aller tranquillement à son collège le matin. Ou, à mon avis, ça m'étonnerait que ce soit dans ses objectifs d'entreprise.
Le problème des privatisations des services publics.
Exact, ouais, oui. Après, bon, c'est vrai que c'est catastrophique, mais bon, je pense que oui, la municipalité a encore oublié que... qu'ils étaient élus par des gens et qu'il faudrait peut-être arrêter de taper sur ces gens qui les élisent et écouter un petit peu ce que ces gens disent, quoi. Dire les transports, c'est quand même c'est essentiel. Et une augmentation de 65 euros par an pour une mère ou un père qui élève ses enfants et qui est au chômage, c'est énorme. 65 euros, ça leur fait un caddie de course par semaine, quoi.
Oui.
C'est beaucoup. C'est beaucoup.
Vous vouliez aussi parler de ce problème de parking à l'hôpital, Marjo ?
Oui. Le Parti ouvrier indépendant en fait a mené une campagne au cours des mois précédents contre le parking payant de l'hôpital Mingeau. Donc la municipalité appelle ça entre guillemets parking visiteur, mais faut pas se leurrer, les gens qui vont se soigner à l'hôpital l'utilisent aussi ce parking, hein, puisqu'il n'y a pas d'autre possibilité de se garer. Et parce qu'on estime que ce parking ne doit pas être payé. On va pas à l'hôpital pour s'amuser. Quand on y va, c'est soit pour se faire soigner, soit pour voir des proches qui sont malades. Et moi, je pense que c'est une forme de racket de faire payer à des gens. Alors, on est allé voir la municipalité en délégation. Bien entendu, la délégation, on l'a obtenue au bout de, allez, au moins 2-3 mois de courrier, de relance, courrier avec accusé réception. Bon, ils sont excusés, ils n'avaient pas reçu le courrier, soi-disant, et les services avaient du mal à le transmettre. Et du coup, on a été reçus par Madame Weinmann, qui est l'adjointe au maire de Monsieur Fousseret.
Sur les transports.
Et il me semble qu'elle est, oui, voilà, sur les transports et la voirie. Et donc, elle nous a expliqué avec un de ses directeurs de bureau, je ne sais quoi, que c'était la meilleure des solutions, que avant à l'hôpital le parking était anarchique, que les gens s'en plaignaient beaucoup et que c'est pour ça qu'ils ont mis en place un système payant, ce qui oblige les gens parce qu'apparemment il y avait trop de parking sauvage, le personnel utilisait le parking qui était alloué aux visiteurs de manière intempestive, ce qui n'est pas forcément vrai. Enfin bref, ils se sont défaussés. En gros, s'ils nous font payer, c'est pour notre bien. Et pour quand on leur a parlé des gens qui ont par exemple des proches qui sont dans des services lourds et qui sont hospitalisés en réanimation, soins palliatifs, ou qui ont eu des greffes et qui sont obligés de rester à l'hôpital pour des périodes assez longues, et dont la famille qui vient les voir est quand même obligée de payer. Alors il me semble qu'il est gratuit 2h30, et puis après il est à 60 centimes d'euros la demi-heure pour un maximum de 5 euros par jour. Quand vous allez voir quelqu'un, admettons, bon, je vais prendre un cas extrême, comme m'a dit la municipalité, ce sont des cas extrêmes, mais il faudrait quand même savoir qu'à l'hôpital, il y a quand même beaucoup de cas extrêmes. Hein. Enfin, on n'y va pas à l'hôpital pour comme dans un parc d'attractions. Et donc souvent, quand on vous voulait accompagner, bah, je sais pas, votre mari ou votre femme ou votre frère ou votre sœur qui est en fin de vie, vous allez le voir tous les jours. Et vous restez de nombreuses heures parfois quand vous avez la possibilité. 5 euros par jour, si vous faites le compte sur une semaine, bon, je crois qu'il est gratuit le dimanche. 5 fois 6, 30, 30 euros par semaine, etc. Si vous faites ça sur un mois, ça fait cher du parking quand même. Hein. Mmh. Et donc voilà, du coup, on a discuté de ça. Et ils estimaient que, mais voyons, ce sont des cas extrêmes. Mais bon, après, je pense pas que ce soit des cas extrêmes. Il y a beaucoup plus de gens que ça qui sont en réanimation, beaucoup de gens qui sont dans des services, beaucoup de gens qui ont besoin, par exemple, qui sont pas, entre guillemets, des cas extrêmes, mais par exemple, qui vont se faire soigner pour un cancer. Quand vous avez besoin de faire une chimiothérapie, les injections... elles vont durer plus de 2h30, donc vous n'avez pas la gratuité du parking. Et puis les injections, vous en faites une un jour, puis vous attendez 2 ou 3 semaines, puis vous revenez en faire une, puis vous attendez 2 ou 3 semaines, puis vous revenez en faire une, etc. Ou les radiothérapies, c'est pareil, c'est le même genre de choses. Donc c'est un parking que vous allez payer, parce que tous les gens qui sont malades ne viennent pas à l'hôpital à bord de VSL ou à bord d'ambulance. Ils viennent aussi en voiture quand vous vous faites ou c'est quelqu'un de votre famille qui vous amène. Donc c'est vraiment horrible de faire payer le parking aux visiteurs ou aux malades. Voilà, donc c'est pour ça qu'on n'est pas d'accord avec ça.
Ok. Eh ben c'est une parfaite transition pour les questionnaires qui vont être un peu plus détendus, hein.
Parce que, ouais, on va essayer.
Faut savoir se détendre un peu dans la vie. Donc le fameux questionnaire du dictateur que j'adore.
Ma
plus grande invention, mon chef-d'œuvre. Comme d'hab, petite mise en situation. Donc on est dans un pays X ou Y où les gens ont énormément de problèmes dentaires.
Oui.
Et vous venez faire du tourisme dentaire pour admirer les mâchoires spéciales, tout ça. Bon, après une chute du prix des bonbons, tout le monde ne mange plus que cela. Et ça aggrave les problèmes dentaires des habitants de ce pays. Tout ceci entraîne une vague de morts suite à des problèmes dentaires, caries mal soignées, infections, invasion de petites souris.
Oui.
Suite aux pertes massives de dents. Hein.
Il est catastrophique.
Et heureusement pour vous, la mort de tous les élus et personnages politiques de ce pays. Moi, je dis heureusement pour vous, car les habitants, ayant eu vent de votre maîtrise de la chirurgie dentaire et étant impressionnés par le score ébouriffant de votre liste aux législatives, décident de vous nommer dictatrice de ce pays. Oui, c'est toujours bizarre de dire dictatrice, parce que ça s'est vraiment jamais produit dans l'histoire, les dictatrices.
Oui.
On est déjà contente d'être dictatrice de ce pays ?
Non, pas particulièrement. De toute façon... Même dans un monde imaginaire, je pense pas que mes amis du Parti ouvrier indépendant me laisseraient devenir dictatrice. On a quand même un parti qui fonctionne beaucoup avec plusieurs secrétaires, avec une direction, un bureau national, avec beaucoup de membres. La prise de décision unilatérale, c'est pas trop dans notre genre. Voilà. Donc je pense pas que je serais très contente dans un hypothétique pays rongé par les caries d'être une dictatrice. Je ne pense pas.
Ce sera quoi votre première mesure pour ce pays ?
Dans un pays rongé par les dents, il faut supprimer les bonbons et obliger les gens à se brosser les dents.
C'est bien.
C'est une méchante dictature.
Ouais, j'avais prévu une relance au cas où vous n'y penseriez pas. Et les dents de vos pauvres sujets, vous y pensez.
Non, c'est la première mesure à prendre dans une dictature pareille. Il n'y a pas le choix.
Quel surnom de dictatrice vous choisiriez ?
Oula !
Ils ont tous des petits noms sympas, en général. On sait pas.
Très franchement,
faire la nulature.
Je ne sais pas.
J'étais pas
très inspiré
non plus.
Peut-être que vous avez des idées
j'avais juste
à me soumettre.
La dictatrice du prolétariat, parce que j'étais pas très vu qu'il n'y avait pas de rapport avec les friandises, tu vois.
Ouais.
En fait, j'étais pas très inspiré, on va le dire.
Ouais. Donc,
quel symbole vous utiliseriez pour exprimer votre pouvoir ? Les gens qui prennent des sceptres, des choses comme ça.
On va faire une petite minute historique, comme dans l'iconographie de Sainte Apolline. J'utiliserai le davier.
Le davier, c'est quoi? C'est un mélange entre un évier et puis un
davier de... Non, si seulement. Non, le davier, c'est l'instrument qui est utilisé pour enlever les dents des gens. Vous savez, l'espèce de pince.
Ah, chez moi, on avait une technique avec un fil et puis une porte qu'on
tirait bien fort. Ah oui, c'est pas mal ça. Oui, mais maintenant... On a eu des problèmes avec les menuisiers dans les cabinets dentaires, ils en avaient marre de refaire les portes. Donc on utilise des pinces, bon, on les utilise. Il y a plusieurs autres instruments qu'on utilise quand on enlève des dents. Mais ça ressemble un petit peu à une petite tenaille en fait, si vous voulez. C'est un peu plus sophistiqué quand même.
Bon, ce serait mieux que ma proposition de la bouteille d'alcool pour rendre hommage à Gérard Chivardi.
Pauvre Gérard.
Quel programme vous supprimeriez des médias? C'est peut-être plus intéressant.
Quel programme je supprimerais des médias ?
Enfin, quel type de programme ? Parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui passe à la télé là-bas, mais ça doit être à peu près les mêmes programmes qu'ici, puisque c'est les mêmes programmes que partout.
Bon, dans l'hypothèse où je serais dictatrice, hein, ce qui n'arrivera jamais, la télé-réalité.
Vous pensez que c'est le pire ? Vraiment ? C'est la chose à supprimer.
Je trouve que c'est vraiment dommage, parce que ça montre des images médiocres de... Et puis... Bon, je fais un peu ma moralisatrice à 2 balles, mais je trouve que oui, ça donne des mauvaises idées aux jeunes. Cette espèce de... Enfin, un peu les choses comme le Secret Story ou ces choses-là. Je trouve que c'est un peu dommage, quoi. Ça explique rien, ça apprend rien, c'est creux. Et puis... À part à apprendre le superficiel, l'apparence extérieure et ces choses-là, et le futile, ça apprend pas grand-chose.
Et puis les pubs pour les bonbons, faudrait pas les supprimer aussi,
peut-être,
dans ce pays,
ouais. Mais d'un autre côté, moi je suis pas anti-bonbons, hein. Je pense qu'il faut manger des bonbons tant qu'on se brosse les dents. Voilà.
Et par contre, la pub, vous êtes pour ou contre?
Bon, j'ai aucune idée sur la pub, je suis pour ou contre. Moi, ça me gonfle la pub quand je regarde la télé. Ça m'énerve quand ça coupe les séries et ces choses-là. Ah oui, puisque j'institutionnaliserai les séries américaines. Je trouve que c'est génial. Non, je rigole.
C'est un point de vue original à gauche.
Non,
mais ce que je voulais dire par rapport à la pub, c'est que du coup, les entreprises, les annonceurs financent les médias.
Oui.
Et le contenu en découle.
Oui, bien sûr, c'est vrai. Oui, on pourrait supprimer la publicité, ça sert à rien. Et puis,
on n'a pas besoin de qu'on nous explique ce qu'on doit
acheter. Je pense pas, surtout qu'en plus pour raconter des âneries, souvent, c'est pas la peine.
Bon, vous êtes de gauche, donc forcément pour la nationalisation des entreprises,
oui.
Parce que vous êtes vraiment de gauche.
Oui.
Quel serait le premier type d'entreprise que vous nationaliseriez?
Le premier type d'entreprise que je nationaliserais. Ouais, je pense qu'il faudrait faire un tir groupé sur l'énergie, les transports. De toute façon, des choses qui avant étaient publiques et qu'on démantèle au fur et à mesure des années. En laissant l'État actionnaire, ma majorité. Oui, je pense que oui, c'est l'énergie, les transports, les premières choses.
Parce que,
vraiment en priorité. Mais après, je pense que ça viendrait avec un paquet groupé. À mon avis, il faudrait tout nationaliser, tous les moyens de production, les grosses entreprises. Mais bon, moi, ouais, en priorité, énergie, transport. Parce que c'est ce qui impacte quand même la vie des citoyens en majorité. Quoi. Les factures de chauffage, de fuel, tout ça, toutes ces choses-là, c'est vraiment la base, hein. Et puis le transport aussi. Quand on voit le prix que ça coûte maintenant de prendre le train, enfin c'est quand même un peu hallucinant, quoi.
Ça coûte à peu près pareil que de se promener en voiture.
C'est un petit peu ça, voilà. Donc.
Et je me demandais peut-être les entreprises de bonbons, hein, faudrait
nationaliser. Ah oui, aussi les entreprises de bonbons.
Pour fabriquer des bonbons qui soignent les dents.
Ce serait génial, ça.
Est-ce que vous construiriez une énorme ligne de tramway dans votre pays?
Une énorme ligne de tramway dans mon pays. On a déjà des trains, ça sert à quelque chose, je pense. Non, le tramway, franchement, j'en sais rien du tout. Est-ce qu'il faut le faire, est-ce qu'il faut pas le faire? Ça dépend. Si les gens sont d'accord pour le faire, oui. Et après, si c'est pour le faire comme à Besançon, non. Le tramway à Besançon, non seulement personne ne l'a décidé, mais en plus, je trouve qu'il a été réfléchi quand on regarde au niveau des plans, en dépit du bon sens. À part se surajouter aux lignes de bus, je vois pas trop l'intérêt que ça a. Par contre, ce qui aurait pu être intéressant, je ne passe pas de la pommade dans le dos de la gauche, hein. Ils auraient pu réfléchir un petit peu mieux. J'ai vu qu'il y avait, par exemple, j'étais à Mulhouse il y a quelques mois, ils ont ce qu'on appelle un tram-train, un peu sur le modèle des Allemands. C'est-à-dire qu'en fait, on a une continuité entre le tramway et les réseaux TER, c'est-à-dire que vous sortez pas de votre rame de tram, et que vous pouvez, hop, ça file sur les lignes du TER, en fait. Et ça permet de joindre entre Mulhouse et Tannes. Alors, ça aurait pu être vachement intelligent si on avait fait la même chose ici pour, par exemple, aller jusqu'à Saint-Vit ou Novillard, par exemple. Ça aurait pu être faire cette espèce de jonction entre le TER et le tram sans avoir besoin de... Voilà, essayer de faire ça un peu plus fluide. Ça aurait pu... Je dis pas que ça aurait justifié qu'on fasse le tram à Besançon, mais ça aurait été un minimum plus intelligent.
On va essayer d'aller un peu plus vite, hein, parce qu'on a beaucoup de temps.
Hein. Oh là là, mon Dieu.
Quelle liberté vous aboliriez?
Ah, moi, j'abolirais pas de liberté. Non, si, la propriété privée.
Est-ce que c'est une liberté, la propriété privée?
Est-ce que c'est une liberté? Ouh là.
On va peut-être pas essayer de...
La propriété privée. Moi, j'entends, je supprimerais la liberté de propriété privée, la liberté de propriété privée des moyens de production. Je n'abolirai pas la propriété privée, comment on dit, c'est un nom
pour habiter, quoi.
Voilà. Il me semble que c'est un nom, c'est la propriété privée de droit social ou un truc dans le genre, de droit.
Je sais pas, moi je suis pas.
Il me semble, je ne sais plus exactement le terme. Je voudrais pas dire de bêtises, parce qu'on va encore me taper dessus. Non, je rigole. Je voudrais pas dire de bêtises, mais oui, j'abolirai la propriété privée des moyens de production. Par contre, le droit que les gens possèdent leur petite maison, leur petite voiture, non.
Puis la liberté de créer des syndicats de patrons, non.
De créer des syndicats de patrons. Non, il faut qu'il y ait des syndicats de patrons. Non, mais si j'étais dans une dictature, il n'y aurait plus de patrons déjà. Voilà. Mais
à part vous.
À part moi, oui, bien sûr. Mais comme je ne serais pas dictateur, c'est pas possible.
La meilleure question, quelle population vous extermineriez?
Ah non, mais non, mais non, moi j'extermine personne. J'ai déjà du mal à tuer des hérissons quand je roule sur la route, j'ai déjà failli me foutre au trou pour éviter un hérisson sur la route, c'est pas pour tuer des gens. Hein. Je crois que c'est pas la peine. Hein.
C'est pas vous qui le faites, hein. Vous donnez juste les ordres.
Ah non, non, mais non, moi je cautionne pas ce genre de choses, moi.
C'est rigolo, c'est souvent les... Bon, ça va pas être très féministe ce que je veux dire, mais c'est souvent les femmes qui veulent pas exterminer des gens.
Ah oui, c'est terrible, non, je sais pas, ça doit être un vieux truc féminin, ça, le genre de... Porter la vie, tout ça, c'est un peu... ça doit être ce truc-là.
Bon, bah du coup, je peux pas vous demander par quel moyen vous les extermineriez, parce que si vous ne voulez déjà pas les tuer.
Non, ou alors je leur ferai des guilis, voilà, pour leur apprendre à être méchants.
Sacrée torture, ça. Mm. Le peuple est un peu dégoûté, vous avez tué personne, ils sont dit, ça fera quoi une dictature sans
tuer les
gens?
Ouais, non, mais s'ils veulent des pains et du sang et des jeux, tout ça, il faut rester avec le gouvernement actuel, hein, c'est ce qu'il faut. Hein.
Et donc, ils en ont marre, ils vous virent.
Oui, c'est pas grave. Hein.
Vous vous rendez à eux afin qu'ils vous jugent ou vous suicidez courageusement?
Ah, je me rends afin qu'ils me jugent, il y a aucun... Enfin, c'est pas qu'il y a aucun intérêt à se suicider, je trouve... Parce qu'après, comme ça, je pourrais écrire mes mémoires en prison, tout ça, etc. Et peut-être que... Voilà.
Il y a moyen de faire de l'argent, mais bon, l'utiliser en prison,
non, non, mais pas pour faire de l'argent. Non, non. Non, non, oui. Non, non, pour écrire des livres sur la dentisterie et toutes ces choses-là, pour que les autres apprennent.
Et vous avez essayé de griller ma question en disant que vous allez vous faire juger, mais vous inquiétez pas, le peuple a décidé que votre sentence serait le suicide.
Ah.
Quel mode de suicide, peut-être, mais de suicide surtout, vous choisiriez pour mettre fin à vos jours?
Waouh, c'est compliqué ça comme situation. C'est drôlement personnel en plus, hein, parce que...
Ouais, ouais.
Enfin, je veux dire, c'est quand même intime, un mode de suicide. Non, je...
Ouais, de toute façon, d'après les audiences, il n'y a personne qui nous écoute.
Oui,
hein,
bah, ça va. Alors, les médicaments, je pense, pour moins souffrir.
Ah ouais. J'avais marqué... Overdose d'anesthésiant dentaire, c'est marqué sur ma feuille. Je vous le montre dans vos enceintes. Vous ne l'avez pas vu, c'est normal. Bon.
Ça ne peut pas être très agréable, une overdose d'anesthésiant dentaire. J'ai quelques doutes quand même.
On s'endort pas juste? Ouais, je sais pas, je sais
non,
pas.
Non, je pense pas.
Bon, on va faire ça vite fait aussi. J'ai un petit questionnaire pour savoir si vous êtes de gauche. On va essayer d'aller vite.
Aïe hop.
Comment vous êtes venu ici?
En voiture, parce que j'habite à Delu, donc j'ai pas trop le choix. À pied, ça fait loin.
Mais c'est quand même de droite.
Ah, désolé. Hein.
Non, mais pourquoi pas.
Mais après, je suis allé me garer et j'ai marché à pied, si ça me donne des points.
Ah, ça va. Non, mais j'ai marqué aussi, pourquoi pas les transports en commun? Est-ce que les ouvriers sont trop mauvais pour vous?
Ah. Non, j'aimerais bien les transports en commun, sauf que je serai arrivé vers 6-7 heures du matin par la seule navette de TER qui existe encore. Et donc, j'aurais attendu 3 heures. Bon, il pleut pas.
Chez quelle banque on va essayer d'aller vite, hein, parce oui. que sinon, il faut répondre par du truc. Chez quelle banque vous avez un compte, histoire de faire plein de pubs?
On a le droit de dire des marques
on va dire que oui.
Chez LCL.
Bon, c'est anciennement public, ça, mais vous inquiétez pas, de toute façon, c'était une question piège. Toutes les banques sont de droite. qu'est-ce que vous allez manger ce midi?
Ce qu'il y aura dans mon frigo.
Ouais, moi je pensais que les gens de gauche ils mangeaient que du goulash, hein, parce
que du goulash.
C'est bien connu, les gens de gauche ils sont fans de l'URSS, c'est très connu.
Ah oui, d'accord,
et puis,
ok.
C'est bien connu, tous les gens d'anciennement des expédits de l'URSS mangent que du goulash.
Que du goulash, d'accord, bah écoutez, je mangerai du goulash alors.
Quelle radio vous avez écouté ce matin, si vous en avez écouté une?
France Inter.
Bon, c'est presque de gauche, mais pas autant que nous.
Ah, exact. Mais ça passe mal à Delu, hein, Radio Bipin, j'ai regardé. C'est un peu trop loin. Non, c'est pas grave.
Mais ça, c'est les conspirations.
Public. D'accord. Je comprends.
Services secrets, pas de problème. Tout ça. Envoyer tous les pauvres en Roumanie ou envoyer tous les riches en Suisse?
Franchement, ni l'un ni l'autre.
Ou les deux. lapider les riches avec des lingots d'or ou lapider les Somaliens avec des grains de riz?
Lapider les Somaliens avec des grains de riz. Quelle idée. Il vaut mieux qu'ils les mangent, les grains de riz.
Ouais, mais ils peuvent les manger après.
Ouais. Juste bon, alors à la rigueur, celle-là, comme ça, ils peuvent manger, mais lapider, non, je suis pas pour la lapidation. Moi.
Vous préférez qu'on aide la recherche pour le cancer ou pour le sida?
Les deux.
Mais si vous deviez faire un choix.
De toute façon, moi, mon choix personnel, entre guillemets, il est fait, puisque je donne tous les mois pour la recherche contre le sida.
C'est bien.
Enfin, c'est pas vraiment la recherche, c'est plutôt pour payer des traitements aux gens. qui ne peuvent pas s'en payer.
Ça vous met plus à gauche, parce que j'ai remarqué que le cancer, en fait, c'était une maladie de droite, une maladie de riche, parce qu'il faut avoir le temps de vivre assez longtemps pour que le cancer puisse se développer.
Alors là, c'est vraiment mal cherché chez moi, parce que mon père est mort à 48 ans d'un cancer, donc...
ouais, 48 ans,
quand, raté.
Quand on a un sida à 15 ans, parce qu'on n'a pas l'éducation, la protection, tout ça,
dire que le cancer est une maladie de droite, c'est pas vrai. Cancer, c'est une maladie de pays développé, par contre, ça, on peut pas dire le contraire.
Donc, une maladie de riche.
Oui, c'est sûr que par rapport aux pays du Sud qui sont plus pauvres, c'est sûr que c'est une maladie de riche. Mais bon, en même temps...
C'était pour faire de l'humour noir.
Il y en avait eu, non, mais j'aime bien. C'est pas grave, ça
me dérange pas. Supprimer la police ou supprimer les délinquants ? Vous avez le choix.
J'ai le choix. Alors, si je réponds que je supprime la police, je serai de gauche. Mais si je réponds que je supprime les délinquants, je serai de droite, je pense. Ouais. On peut pas dire Joker, appeler un ami, tout ça, 50-50.
Elle est du public très nombreux. C'est difficile, mais si vous avez le choix.
Non, l'un ou l'autre. Sais rien. Si j'ai le choix.
C'est lequel le plus utile ? La police ou les délinquants ?
Entre guillemets, la police peut être plus utile, entre guillemets. Ça dépend sous quel gouvernement et ça dépend avec quels moyens et quelle politique elle mène, quoi. Enfin, c'est surtout ça.
Bon, je suis un peu anarchiste sur les bords, mais je pense que la police, ça sert pas à grand chose, parce qu'ils arrêtent jamais ce qui se passe, ce qui se passe avant. Les vols, ils sont en niveau prévention.
Donc il faudrait supprimer les délinquants selon vous alors ? C'est
non,
ça ?
Il faut supprimer la police.
Ah, il faut supprimer la police.
Les délinquants, ils font pas de mal. Enfin, si, mais.
Ouais.
Mais il y en aura toujours. C'est ce que je pense personnellement, mais c'est un avis très spécial que je pense que personne partage avec moi à part les anarchistes. Bon, on va passer. On va élargir tout ça. Parce que si je vous ai fait venir aussi, c'est un peu pour dire des saloperies sur le PS.
Oui.
J'ai un peu de mal à en trouver
un
moment.
On l'a pas déjà fait, ça ?
Ouais, mais un peu plus.
Ah, ok.
Parce que, oui, voilà, tout le monde est content, tout le monde est dithyrambique, même les syndicats, sur ce qui se passe, ce début de gouvernement.
Non, je passe pas tous les syndicats, hein. Je pense qu'il faut pas généraliser.
Ils sont mieux traités, donc ils sont un peu moins virulents, on va dire. Vous avez voté pour qui au premier tour ? Parce qu'il n'y avait pas de candidat à POI ? Au présidentiel.
Au présidentiel, au premier tour, j'ai voté blanc. Et au deuxième tour, j'ai voté blanc.
Ok.
Et j'assume.
Bah, vous avez raison. Au moins, vous n'allez pas vous en vouloir de la politique qui est faite.
Non, puis même, c'était uniquement pour respecter le droit de vote, plus que pour choisir quelqu'un. Et voilà.
Vaut mieux pas ne pas aller voter plutôt que de voter blanc, parce que les votes blancs, ils ne sont pas comptés.
Oui, mais bon, non, moi c'était... Non, j'ai l'habitude de voter depuis que j'ai le droit, alors je vote. C'est vrai qu'après, oui, c'est pas comptabilisé, mais bon, en même temps...
Donc,
on a le droit de pouvoir voter dans notre pays. Il y a des pays où les gens n'ont pas le droit de voter, il y a d'autres pays où les femmes n'ont pas le droit de voter, donc je vois pas pourquoi. Ça prend 5 minutes avant d'aller acheter sa baguette de pain. C'est bon.
Moi, je pense que si on n'est pas représenté, on peut se permettre de ne pas aller voter, mais bon, on va essayer de passer à autre chose. C'est pas forcément ce dont on devait parler.
Après, c'est personnel, hein.
De traitement des étrangers par le nouveau gouvernement, notamment des Roms.
Ouais.
Manuel Valls qui dit qu'il faut démanteler les camps de Roms. Mmh. Quelle est l'utilité de démanteler un camp de Roms si. Après, les gens se retrouvent à la rue.
Oui, de toute façon, c'est idiot. Mais bon, de toute manière, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Hein. Au niveau de la politique, on a remplacé la droite par la gauche. On a eu l'illusion qu'on changeait les choses. Enfin, les gens ont eu l'illusion qu'ils changeaient les choses. Et puis, de toute façon, on mène absolument les mêmes politiques. Et c'est atroce.
Mais peut-être qu'ils sont moins virulents dans les mots, mais dans les actes,
c'est pareil.
Un peu pareil.
Hein, c'est juste rajouter un joli petit papier peint rose sur les murs. Mais c'est pareil pour cacher la misère aussi. Hein, de toute façon, c'est quand même catastrophique de démanteler les camps de Roms, parce que ces pauvres gens, où est-ce qu'ils finissent, quoi ?
Au moins dans un camp,
ils ont un minimum d'organisation sociale, et peut-être que c'est plus facile pour les associations d'aller dans un camp et puis de les aider, de leur apporter des choses, que d'aller chercher des gens individuellement dans la rue. Enfin, je veux dire, c'est.
Puis la vraie solution, ce serait de les loger, leur permettre le même accès à tout le monde, au travail.
Voilà, au travail, aux soins, toutes ces choses-là. Après. Oui, ce serait l'idéal, mais démanteler les camps de Roms, c'est vraiment pas la solution. C'est clair et net. Hein.
30 secondes sur l'augmentation du SMIC.
C'était combien déjà ? 60
Ça fait 7-8 euros sur ma fiche de paye, je suis à mi-temps.
Chapeau, alors avec 7-8 euros, qu'est-ce que vous allez vous payer ?
Oh.
En plus.
Je sais même pas.
Qu'est-ce qu'on peut se payer avec ces touillus d'euros?
On peut essayer d'être plus rapidement.
Ouais. Ah ouais, c'est bien ça. Avec ces touillus d'euros, on va rembourser beaucoup ces dettes.
Il y a un autre point, moi, qui me taraude assez en ce moment, c'est la situation des 18-25 ans. Parce que ça, je m'en étouffe tellement ça me prend au cœur.
Oui.
Ils n'ont droit à rien du tout. Enfin, à part aux bourses universitaires, en aide sociale, les jeunes n'ont droit à rien du tout. Les étudiants ne sont pas comptés dans les statistiques sur la pauvreté. Qu'est-ce que vous feriez, vous, si vous étiez à la place du Parti Socialiste pour les 18-25 ans, concrètement, maintenant
Le problème de la jeunesse, ça va être difficile de développer ça en quelques secondes, parce que c'est quand même un gros problème. C'est vrai que... Il y a le problème des diplômes qui sont dévalués, il y a le problème des bourses, il y a le problème du logement, il y a le problème de la santé, il y a quand même énormément de problèmes pour les jeunes. C'est catastrophique. Qu'est-ce que je ferais à la place du gouvernement, c'est ça ?
Oui.
Il faudrait déjà revaloriser les bourses, il faudrait...
Et une allocation pour ceux qui ne sont pas étudiants, parce que tout le monde ne peut
aussi,
pas être étudiant.
Il y a cette question-là. Non, puis même, c'est catastrophique, je veux dire, pendant l'été, moi je me rappelle d'avoir été étudiante, c'est vrai que j'ai eu une bourse sur les dernières fins, sur les études que j'ai eues à la fin, puisque...
Les bourses qui sont que sur 10 mois, elles étaient que sur 9 mois avant, maintenant sur 10 mois.
Voilà, c'est ça, elles sont que sur 10 mois, donc ça vous oblige à travailler l'été. Bon, après c'est très très bien, mais bon, le problème c'est que c'est pas vraiment reposant par rapport à des autres étudiants qui ont leurs parents qui sont derrière et qui peuvent aller danser à Ibiza tout l'été. Bon, peut-être pas quand même, mais non, c'est vrai que c'est compliqué parce que il y a quand même quelque chose qui sont pour les étudiants, mais bon, pour l'avoir vécu et l'avoir vécu de très près pour mon compagnon qui vit avec
400 euros maximum,
moins de 400 euros, voilà, moins de 400 euros par mois, c'est vrai que c'est vite fait, hein, entre la chambre étudiante, les courses, les transports, on est vite au-delà. Et du coup, ça condamne beaucoup de gens à manger, quand ils ont les moyens, du riz, des pâtes, du riz, des pâtes, du riz.
Et puis de la semoule le jour de fête.
Et de la semoule, voilà. Non, non, il faudrait vraiment revoir. Et c'est vrai que le problème des gens qui ne sont pas étudiants et qui ne travaillent pas, c'est aussi un gros problème, mais il va y en avoir de plus en plus. C'est bien ça qui va être... Avec la dévaluation des diplômes, avec toutes ces choses-là, on va en avoir de plus en plus. Et puis les problèmes d'accès à l'emploi, bien sûr.
Ça va être l'heure de nous quitter. Bon, je vais aussi rappeler que vous faites partie du comité contre la ratification du TSCG.
Oui, oui, pour le non à la ratification du TSCG. Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union européenne.
Bon, l'interview doit passer sur Radio Bip de temps en temps, qu'on a fait avec vous. On n'a pas le temps d'en parler, mais il y a un site sur lequel les gens peuvent s'informer par rapport à ça.
Alors, si je me souviens bien, c'est http://non à la ratification du traité de Bruxelles, parce qu'il y a un S à Bruxelles, tout attaché, .wordpress.com, me semble-t-il. Voilà. C'est dommage qu'on n'ait pas le temps d'en parler parce que on a un petit peu avancé, on continue à se réunir, on a contacté des gens qui font partie des audits contre la dette, ces choses-là. Donc les choses avancent tout doucement. La ratification avance aussi puisque le gouvernement a décidé que, enfin, le Conseil constitutionnel n'avait pas besoin de se prononcer pour que ce traité soit signé. Donc ça passera simplement comme une loi à l'Assemblée. Ce qui va quand même faciliter drôlement la chose, puisqu'on n'a pas besoin de convoquer le congrès, on n'a pas besoin de faire toutes ces démarches-là qui sont parfois un petit peu longues. Donc là, de toute façon, on fonce vers l'austérité à toute vapeur.
Eh ben, c'est sur cette note d'espoir et d'optimisme qu'on va se quitter. Merci encore à Pauline Trioulard.
Mais de rien, merci à vous.
Du Parti Ouvrier Indépendant, il faut leur dire, que les gens sachent que ça existe quand même. D'être venu à ce micro, dans ce studio, à Radio Bip. Merci Radio Bip de me laisser faire de la merde tous les lundis matins de 10h à 11h. Et les autres jours quand je suis payé, ce qui n'est pas le cas là, on s'en fout. Et maintenant, la suite de vos programmes sur Radio Bip. Peut-être un dernier mot, qui est juste un mot à Pauline.
Oui.
Juste, c'est oui, d'accord.
Un dernier mot, oui. Voilà.
Eh bien, moi, c'est parce que je suis toujours dans la contradiction, ce sera non. Au revoir.
Une jolie forme.